c'est toujours sur mon cœur parce que je crois qu'aucun prédicateur vous dira, j'ai reçu ça, mais ce n'est pas pour moi. Je ne connais personne comme cela. Par contre, c'est dans la continuité du message que j'ai apporté dimanche dernier. Alors ceux qui n'étaient pas là, bon, ils vont devoir attraper le train en route. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas bien méchant. Dimanche dernier, donc, j'ai prêché sur le fait que Dieu était un aimant et qu'il fallait qu'on soit attiré à lui et que les péchés, ce sont autant d'éléments qui se mettent entre les aimants et qui fait que les aimants, bah, sont plus collés. Et je voulais juste ressortir une partie que je voudrais développer, que le Seigneur m'a demandé de développer particulièrement, parce qu'à chaque fois dans les messages, que ce soit Lionel ou moi, on dit tiens, ça sera pour un prochain message. Et sur certains, ils l'attendent encore. Parce que ça faut que ça le temps de mûrisse. Voilà. Et l'une des choses que je vous ai parlé, c'était la profonde repentance. Et donc ce matin, je voudrais vous apporter sur le message de la repentance. J'ai cherché à savoir ce que le Seigneur voulait qu'il soit apporté. Et c'est toujours compliqué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a ce que Dieu vous envoie et ce que nous on réfléchit. Bon Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? Et je vous ai tellement... Voilà, il y a des choses qui, voilà, qui sont au fond de moi et qui des fois elles ont du mal à sortir. Alors je vais faire plus simplement. Quand j'ai fait ma formation biblique, j'ai eu un livre que l'une de mes sœurs ici dans l'église a, qui est de Charles Finney. Et dans ce livre, il parle justement de comment il est devenu chrétien. Et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément impacté dans ma vie, parce que c'est quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, continue à m'impacter. C'est la repentance. Et dans ce livre, il raconte comment Dieu l'a travaillé, mais en profondeur, dans la repentance. Et moi, c'était beaucoup de réflexion, déjà sur ma propre vie, sur certaines choses où je dis, Seigneur, mais est-ce que moi, je t'ai déjà réellement été dans ces démarches? Ou est-ce qu'on a un peu esquivé vite fait, voilà, ta grâce me suffit? Ou est-ce que je vais plus profondément dans ce que le Seigneur veut pour ma vie? Et du coup, j'ai commencé à faire cela. Et le Seigneur m'a montré des choses. Alors des choses que j'ai déjà demandé pardon. Alors j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me les montres? Ben, c'est parce que déjà, une, il me les a montrées. Je pensais avoir demandé pardon, mais je n'avais pas un profond. Et on va développer ce qu'est une profonde repentance. Et d'autres histoires que le Seigneur m'a refait surgir. Que j'ai demandé pardon, c'est de téléphoner ou de joindre des gens où j'ai mal agi avant que je sois chrétien. De leur demander pardon. Parce que eux, ils ont besoin de cette délivrance. Eux, ils ont besoin de dire, tu sais, à telle période, j'ai fait ceci, cela, j'ai mal agi. J'ai fait des choses qu'il ne fallait pas, je ne savais pas. Et vous imaginerez même pas à quel point c'est une délivrance aussi bien pour vous que pour l'autre. Souvent, nous, on s'arrête à nous, puis voilà. Non. Alors, pour vous expliquer un peu, la repentance, déjà, on le trouve dans Matthieu 3. Nous avons un dénommé Jean-Baptiste. Homme avec un charisme au plus extraordinaire, vu qu'il avait la tenue la plus à la mode qui soit, hein, il n'était pas habillé chez, je ne sais pas quelle grande marque vous aimez bien, mais en tout cas, il était habillé d'un manteau de poil de chameau avec une ceinture de cuir. J'imagine, alors, il n'avait pas, aucun couteau n'était passé sur sa tête, donc il avait des cheveux longs, donc on aurait pu croire à un hippie, hein. Et en plus, il avait un message. Des plus décoiffants, repentez-vous. Sur certains, il va même les même traiter de race de vipère. Même si c'était un langage de l'époque, c'était quand même pas un langage très sympathique. Donc, un personnage un peu particulier. Et dans Matthieu 3, de 1 à 2, en ce temps-là, apparut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de la Judée. Il disait, repentez-vous, quoi? Car le royaume de Dieu est proche. Le message de Jean-Baptiste est court, concis, carré. N'y a pas de détour à voir. Vous êtes tous perdus, repentez-vous, sinon vous allez en enfer. Ça c'est du message, hein. Alors je pense que si au jour d'aujourd'hui on le prêche dans l'église, je crois qu'il y en a une partie qui partirait. Repentez-vous. Bon, ça commence bien, hein. C'est sympa. En plus, message carré qui rentre dans l'art avec un bonhomme qui franchement est pas habillé à la dernière des modes, hein. Mais il faut comprendre une chose. On va repartir un peu en marche arrière. De Malachie jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive, il n'y a plus eu de prophète à Jérusalem pendant tout ce temps de silence. Et d'un seul coup, un prophète arrive et commence à prophétiser. Et les gens se disent, ah! Mais ce qui va être assez étonnant, c'est que ce message invite à changer de vie, recevoir, revoir leur façon d'être. D'un seul coup, il y a un message qui est un peu spécial. La repentance, ça commence pour tous ceux qui ont le droit de décider. Donc ce message, à part, je dirais, les deux petits bébés, les petites filles là-haut, c'est pour tous, même pour vous. Chacun de nous, oui, vous deux aussi. Et ce qui est assez amusant, c'est que de Matthieu 3, on passe à Matthieu 4, il y a Jésus qui arrive. C'est court quand même, hein? Matthieu 4, 17, dès ce moment, Jésus commence à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Ça, c'est marrant. Ils disent exactement la même chose. Ils prêchent exactement la même chose. Ils prêchent la repentance. Et si vous regardez plus clairement dans l'ensemble de la parole de Dieu jusqu'à la fin, c'est repentez-vous. Repentez-vous. Il y a de là. Mais se repentre de quoi? Ben, moi, je suis chrétien. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est bon, moi, j'ai ma carte. Maintenant, c'est la carte verte. J'ai ma carte verte. C'est bon, moi, je suis open bar. Ben, si vous êtes ça, mes frères et sœurs, il vous manque un gros morceau. Un gros morceau. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai dit, de Malachie jusqu'à Matthieu, jusqu'à ce que Jean-Baptiste arrive, il n'y a pas eu de prophète. Et là, d'un seul coup, il y a deux prophètes. On commence d'abord par Jean-Baptiste et ensuite nous avons Jésus-Christ qui vont prêcher la même chose. Donc c'est-à-dire qu'il y a déjà ils sont cohérents dans leur message, qui est une chose essentielle. C'est pour ça que nous avons aussi Matthieu, Marc, Luc, trois épîtres qui racontent les mêmes histoires avec un point de vue différent, parce que c'était une chose essentielle dans la culture juive, que ce ne soit pas qu'une seule personne qui apporte, mais qu'il y en ait plusieurs et le même message. Et Jésus-Christ va apporter le même message que Jean-Baptiste. Mais Jésus va aller plus loin. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il va avoir l'inspiration de Dieu et du Saint-Esprit, et donc il va développer le message. Mais le début du message est le même, et il prêchera le même message, repentez-vous. Il va le développer et va lui donner de la force, de l'autorité. Dans Marc 6, de 12 à 13, là, on est arrivé que c'est les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus vont partir, et dans Marc 6, de 12 à 13, ils partirent, ils prêchèrent la repentance, ils chassèrent beaucoup de démons. éloignèrent d'huile beaucoup de malades et il les guérissait. Ils prêchèrent la repentance. Bah oui, les disciples ne peuvent pas faire mieux que le maître. Si le maître prêche la repentance, on ne peut pas prêcher autre chose. Si moi je suis le disciple de Jésus-Christ, je ne peux que prêcher ce que lui-même a prêché. Je ne peux pas inventer autre chose. Ou sinon, dans ce cas-là, je fais de la parole de Dieu de l'eau de rose. Je la détourne de son contexte, je la sors, je la vide de sa substance. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Vous connaissez l'histoire de Jonas? Vous connaissez tout ce hein, avec l'histoire du poisson? Donc déjà, il est parti de bon cœur à Ninive. Hein, il est allé en « Ouais, il va !» Ou « Ninive, c'est par là ?» Ouais, moi, je vais plutôt par là. Et pourtant, Ninive était une grande ville parce qu'il fallait quand même 3 jours de marche pour faire toute la ville. Donc déjà, lui, il va faire 15 jours. Grand prophète, hein. Comme quoi l'œuvre de Dieu ne s'arrête pas au serviteur, mais bien à sa grâce. Le roi va entendre le message. Le peuple va s'humilier, va se repentir de leurs mauvaises actions. Et toute une ville va échapper au carnage, va échapper au jugement. Parce qu'ils ont entendu et qu'ils ont accepté et se sont repentis. Pourtant, hein, Jonas, c'est pas le meilleur hein, à ce niveau-là. Je me dis que je dois être un peu Jonas finalement sur certains points. Hein. Et Pierre, l'apôtre Pierre. Alors là, on est à la naissance de l'Église, si je puis dire. Hein. On est donc à le jour de la Pentecôte. Donc le Saint-Esprit va descendre dans la chambre haute. Donc c'est les prémices de l'Église, si je puis dire. Et donc, d'un seul coup, il va se passer quelque chose d'assez un peu particulier. Donc là, les gens vont entendre du bruit, ils vont venir. Et donc Paul va prêcher. Pierre, merci. C'était pour voir si ça suivait. Non, c'est Pierre va prêcher. Mais il faut comprendre une chose, c'est que le peuple, quand ils vont entendre le message de Pierre, va se trouver dans une position assez particulière. Parce que nous, on lit encore une fois en diagonale, et puis il y a eu 5000 de sauvés. Alléluia! Mais vous vous rendez compte que d'un seul coup, tous ces gens qui attendaient cette culture d'attendre le Messie, comprennent que Jésus-Christ était le Messie et qu'il est mort. Ils se retrouvent dans une position un peu de désarroi et de confusion. Et on peut le lire. Qu'est-ce que va dire Pierre dans Acte 2, verset 38. Je vous laisse chercher. Acte 2, 38. Qu'est-ce que va dire Pierre? Il leur répondit, repentez-vous et que chacun se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Repentez-vous, changez de vie. Combien on est bien dans notre vie? On est bien dans notre petit confort, dans nos petites choses. Et là, le Seigneur nous demande de quoi? De sortir. La repentance, c'est une action, ce n'est pas quelque chose de passif. Dans 2 Pierre 3, verset 9, 2 Pierre 3, 9. Parce que si certains pensent que je suis bien mignon dans ce que je dis, dans 2 Pierre 3, 9, le Seigneur dit, « Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. » Oui, parce que depuis le temps, quand même, ça fait un peu plus de 2000 ans, hein, vos histoires. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu veut et use de patience envers tous, envers moi, pour que tous arrivent à la repentance. La repentance n'est pas quelque chose de facultatif dans une vie de chrétien. C'est le point de départ. C'est un point donné. Dieu veut que tous soient sauvés, changent de direction, de la voie de la perdition passe à la repentance. C'est une transformation totale. Ce n'est pas une transformation partielle. C'est une transformation totale. Totale. Complète. Dans Actes 17, à partir du verset 30, Acte 17 du verset 30, et là, vous allez voir que Dieu est bon. C'est Paul, si je ne me trompe pas, oui, non, je ne sais plus qui est-ce qui dit ça, mais Dieu sans tenir compte de notre temps d'ignorance. Parce que moi, j'étais ignorant avant que Jésus-Christ, avant qu'il se révèle à moi, j'étais un ignorant. Même si j'étais dans une famille chrétienne où on priait ensemble, où j'avais la Bible sur ma table de nuit, j'étais ignorant tant que le Saint-Esprit ne m'a pas révélé l'œuvre de la croix, ne m'a pas révélé que j'étais perdu, ne m'a pas révélé que sans lui, j'étais condamné à la mort éternelle. J'étais un ignorant, comme chacun de nous, je pense, tant que Dieu ne s'est pas manifesté. Donc Dieu, sans tenir compte de notre temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes. Alors, quand dans la Bible, si c'est homme, c'est aussi pour les dames. Hein. Ce n'est pas réservé aux messieurs. Donc, annonce maintenant à tous les hommes et toutes femmes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Ce n'est pas facultatif dans une vie chrétienne. Et vous allez voir qu'en développement un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que c'est même une façon de vivre. C'est une façon de vivre. Dieu ne sauve pas quelqu'un contre sa propre volonté. Dieu propose et proposera toujours. Nous aurons toujours le libre choix. Mais si tu acceptes le premier pas pour toi, comme pour moi, c'est la repentance. De se repentir. Alors c'est un mot, je dirais, repentir, c'est un peu un mot religieux finalement. Hein ? Parce que si vous parlez à des jeunes de se repentir, ils vont plutôt vous sortir le film Les Repentis. Hein ? Voilà. C'est un mot un peu spécial. On n'utilise pas ça couramment quand même à la maison. Repends-toi ! Bon, peut-être dans les films de sorcellerie, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Ou peut-être, je ne sais pas. Ce n'est pas un mot qu'on utilise. Donc c'est un mot qui est compliqué à comprendre. C'est un mot qui, des fois, est difficile à comprendre la substance d'où il veut nous emmener, ce mot. De se repentir. Eh oui, Dieu ne sauve pas quelqu'un contre sa propre volonté, mais par contre, Dieu nous appelle. Dans 2 Corinthiens 7, 10, donc là c'est sûr que c'est Paul qui parle. J'aime beaucoup cette phrase. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont il ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. C'est philosophique ça. Hein ? D'être conscient qu'on est dans la faute devant Dieu, crée en nous, qui sommes enfants de Dieu, une action qui va durer si on la laisse aller jusqu'au bout. Par contre, vous aurez l'exemple inverse de Judas qui va être pris de remords après avoir donné Jésus, Il est marqué qu'il se prit de remords. Bah, il s'est quand même donné la mort. Donc c'est qu'il n'avait rien compris au film. C'est un sentiment, mais ce n'est pas une action réelle dans sa vie. Ce n'est pas une action profonde. C'est juste en surface. Et là, Dieu, ce qu'il nous appelle à faire, c'est une action intérieure et profonde. Je ne connais personne, et dites-moi si j'ai tort, mais je connais personne qui s'est repenti avec joie. Moi, quand le Seigneur m'a prouvé, je me suis mis à pleurer. J'ai vu dans quelle crasse j'étais, dans quelle perdition j'étais. J'étais perdu. J'étais à genoux, le miroir s'est écroulé. J'ai pleuré, j'avais honte. Est-ce que l'un de mes frères, de mes sœurs, s'est repenti avec joie? Oh, oh oui, je suis mauvais. Ouais. Si c'est le cas, mes frères et sœurs, ben, je pense qu'il faudrait que tu passes un peu de temps avec Jésus pour qu'il t'éclaire sur ce sujet-là. Mais pour ceux qui se sont réellement repentis, qui ont vraiment mis la lumière de Jésus-Christ dans leur vie, ben, ce qu'on a en voie n'est pas terrible. N'est vraiment pas beau. Et moi, je peux le dire, et comme je dis, j'ai pas honte de le dire souvent, même chez moi, tout ce que je vois n'est que grâce. Il y a un chant qu'on chante à l'église, « Je te donne ce que j'ai de meilleur », mais en vérité, je vais vous dire une chose, la seule chose que j'ai de bon, elle vient de lui. J'ai rien de bon en moi, si ce n'est ce que lui me donne, que je lui redonne. Mais je ne connais personne qui se soit converti avec joie. Et si c'est le cas où c'était soft, mon frère, ma sœur, j'ai peur qu'il te manque sérieusement un gros morceau. Ouais. Mais plutôt dans la tristesse. Parce que la repentance crée de la tristesse. Alors, ce n'est pas la tristesse, oh mon pauvre, hein, je ne suis pas là dans ce sens-là. Mais crée au fond de nous, de nos entrailles, une tristesse, une détresse. C'est là où on peut dire que nous avons besoin d'un sauveur, que nous avons besoin que quelqu'un vienne nous aider parce que bah, ce qui a été révélé, on se rend compte qu'on n'est pas capable. On n'est pas capable. Et reconnaître son état, c'est quelque chose de difficile, mes frères et sœurs. Le péché, bah, y en a qui sont sympas. Les péchés sont plutôt... Moi, j'aime bien. Enfin, lui, il aime bien. La chair l'aime bien. Parce que c'est la chair qui aime le péché. C'est déjà difficile parce que déjà, il faut reconnaître qu'on est sur une mauvaise voie. Donc, c'est-à-dire qu'on a déjà besoin que quelqu'un y mette la lumière. Reconnaître qu'on a tort. Alors là... Je sais pas, hein, mais c'est pas facile de reconnaître qu'on a tort. Qu'est-ce qu'on est doué pour trouver des excuses? Oui, mais tu comprends, il y a eu une éclipse, les quatre roues de ma voiture ont crevé, je suis tombé en panne d'essence, on m'a volé le moteur. On est très doué. On est très doué pour trouver des excuses. Déjà de reconnaître qu'on est sur une mauvaise voie, reconnaître que l'on a tort, bah vous avez déjà fait un bout de chemin. Mais vous n'avez pas fait tout le bon chemin. Nous n'avons pas fait tout le chemin. De considérer que nos valeurs sont fausses. Alors, je suis sur une mauvaise voie. J'ai tort, et tout ce que je pensais dans le monde par rapport à Dieu est faux. Ça va? Ça va, c'est bon, je ne vous ai pas trop mis le mot à la raie zéro? Ça, c'est le début de la repentance, mes frères et sœurs. Là, vous n'êtes que sur la première marche de la repentance. La repentance, alors moi je ne suis pas doué en langue, Lionel est beaucoup plus doué que moi, ou mon fils peut-être qu'un jour quand il prêchera, qui parle le latin, vous expliquera ce genre de mots, est souvent associé à un mot en grec, etc., que je ne dirai pas parce que je ne sais pas le dire, mais qui veut dire métamorphose, transformation. La repentance est associée au changement ou à la métamorphose, c'est-à-dire un changement radical. Dieu nous appelle à un changement, à une métamorphose radicale. Eh oui. Eh oui, il faut régler. Repentance veut dire qu'il faut qu'on règle nos problèmes. Ah là là. Il faut bien comprendre une chose, mes frères et sœurs. C'est que nous sommes assez doués pour trouver des excuses. Ou on a fait un péché et puis on dit, oh là là, pourquoi j'ai fait ça? Attends, je vais plus jamais le faire et ça sera bon. Sauf que quand nous agissons de la sorte, nous sommes sans force, sans puissance. Parce que nous faisons les choses par nous-mêmes. Et je peux vous dire une chose, tôt ou tard, vous allez recommencer. Je vais recommencer. Inversement, si on commence à se tourner vers Dieu, ben là, il va y avoir une réelle action. La repentance, c'est pour tous les jours de la conversion, mais pas que. La repentance, mes frères et sœurs, c'est quelque chose que nous devons nous pratiquer, enfants de Dieu, tous les jours. Je vais donner un exemple. Voilà, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a péché ce matin ou la semaine dernière, en entrant même dans cette salle, ou il y a 30 ans. Mais si on ne la règle pas tout de suite, la chose demeure, la chose reste là. Et cette chose vous empêche, m'empêche d'avoir cette relation avec Dieu. Eh ouais, eh ouais. Il nous faut passer par la repentance. On compte sur la grâce de Dieu. Combien certains disent, oh, c'est bon, j'ai la grâce de Dieu, c'est bon, voilà, j'ai donné ma vie à Jésus, tout est réglé, alléluia, tout va bien. Amen. Amen. Mais ça ne t'empêchera pas de passer par la repentance. Ça ne t'empêchera pas de demander, et comme le dira le roi David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mes pensées. Sonder. C'est d'aller en dessous l'eau et atteindre la boue, la crasse, la puanteur, les choses qui moisissent. On en a combien dans nos cœurs qui moisissent de choses? On a du mal à demander pardon. Il nous faut passer par la repentance. On ne peut pas tout mettre sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là, c'est un fait. Mais la grâce de Dieu nous envoie, nous ramène, nous conduit, nous tient la main vers la repentance. Déjà, on va commencer par une chose, c'est que quand nous avons péché, j'ai péché. Il est marqué dans la parole de Dieu que ceux qui sont en Christ ne pêchent jamais. D'accord. Donc, nous sommes tous saints, il n'y a pas de problème. Mais on va parler pour les autres. Hein. On va commencer par une chose toute simple. C'est confesser son péché. Vous avez déjà pratiqué cela? La force, l'énergie, le courage de confesser un péché, c'est dur. Moi, je vois certaines choses que j'ai dû confesser à ma femme, mais il y a la honte qui monte. C'est, on ferme les portes, on vérifie que rien puisse filer. Ça a du mal à sortir de confesser son péché. Déjà en commençant par Dieu lui-même. Mais moi, il m'est arrivé où des fois, il fait que je confesse à quelqu'un d'autre. Entre autres, mon épouse. Et c'est une chose assez intéressante parce que j'ai rencontré un pasteur, on discutait ensemble et lui, il avait une difficulté justement. Il aime sa femme, il aime Dieu et pour des histoires d'église, il accueillit les gens chez lui, etc. Et il était attiré par, entre autres, une demoiselle qui, momentanément, était chez lui. Et il le combattait de toutes ses forces et c'était une souffrance. Parce qu'il ne voulait pas déroger à la règle, à tel point qu'il a, pour pas faire de bêtises, il a congédié la demoiselle. Parce qu'il ne voulait pas tomber dans le travers. Mais c'est quelque chose qui restait au fond de lui, qui le rongeait. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu n'en parles pas à ta femme? C'est ta première conseillère. Donc, mesdames, vos premiers conseillers, c'est vos maris. De dire, mais c'est dur! De confesser, c'est dur! Mais quelle délivrance derrière! Et ce pasteur, quand il est revenu, il m'a remercié. Enfin, on a surtout remercié Dieu, hein, parce que moi, voilà. Mais sa femme, ça a resserré leur lien. Ils ont pu prier ensemble. Parce qu'elle, elle est consciente que son mari a cette faille, mais que son mari veut rester un homme intègre. Voilà. Il n'a pas failli, mais il a préféré se dégager d'une situation délicate parce que le péché était tendu vers lui. Mais la Bible dit que quand tu as convoité, tu as déjà commis. Et il avait besoin de son épouse pour être libéré. Et ils ont pu prier ensemble. Eh oui. Le dire à Dieu, l'apporter à Dieu, chaque fois, sinon le problème, mes frères et sœurs, il demeure. Et il va descendre, et il va pourrir, il va te pourrir la vie. Il sera une porte d'accès aussi à l'ennemi pour t'attaquer. Parce que tu lui auras donné l'accès dans ta vie, dans ce domaine-là, ou dans d'autres. Le Saint-Esprit, je pense qu'il vous parle, il n'y a pas besoin. Je peux vous dire que pour ma part, j'en ai besoin. La repentance fait partie de la vie normale d'un chrétien, même si ce n'est pas normal de pécher. Mais la repentance, c'est la vie normale d'un chrétien. Pour vivre avec une conscience pure devant Dieu, il faut la purifier par la repentance chaque jour. Parce que c'est de Dieu que viennent toutes ces choses. Donc, comme je vous ai dit, on esquive. La décision que l'on prend est inapplicable. Quand on esquive et qu'on ne veut pas faire ce que Dieu nous demande de faire, de passer par la repentance et qu'on essaye de faire les choses par nous-mêmes. La vérité, c'est que nos décisions, on n'y arrive pas à les appliquer. Tôt ou tard, on glisse. Mais si on ne les règle pas devant Dieu, il faut qu'on les règle devant Dieu. Alors, Jean 13, 10. Jean 13, 10 nous dit quoi? Marcher de manière continuelle dans la repentance. Alors comme je vous ai dit, je vais vous expliquer un peu les différentes étapes de la repentance. Parce que certains, ils pensent que voilà, ils ont fait une bêtise, ils le remettent à Dieu, tac, bim, hop, hop, c'est réglé. Non, oh là là, vous allez voir, c'est bien plus profond, bien plus percutant. Déjà, il faut reconnaître un péché. Attention à notre vocabulaire. Alors, je vais vous donner des phrases, vous allez voir, vous allez peut-être un peu les reconnaître, où on va discréditer un péché. Bah déjà, ce n'est pas toujours évident de détecter qu'on a péché. Hein. C'est pas forcément, il y a des choses, ce n'est pas très très net. Allez. Non, excusez-moi, c'était juste un manquement. Non, non, j'ai pas péché. J'ai juste eu un manquement ce jour-là. J'ai un regard où il fallait pas, hein, juste un manquement. Non, j'ai pas péché. J'ai juste manqué. Oh, c'était juste une maladresse, ma main se baladait et a touché ce qu'il fallait pas. Non, j'ai pas fait exprès, hein, c'était de la maladresse. Ah non. Oh non, je suis pas comme ça, attendez, oh, je suis chrétien. Hein. C'était une maladresse. J'ai ouvert la porte qu'il fallait pas. Ah, oh, c'est ma petite faiblesse. C'est mon petit péché mignon. C'est plus fort que moi. Quoi? Non, mais tu comprends, c'était plus fort que moi. Attends, t'es en train de dire que Dieu t'a tenté au-delà de tes forces? Donc, t'es en train de dire que Dieu est un menteur? Et on rentre dans le compromis, on rentre dans toutes sortes de choses qui fait que nous neutralisons l'œuvre de la repentance, l'œuvre de réconciliation que Dieu a mis devant nous. La repentance doit normalement, mes frères et sœurs, créer en nous déjà le regret. Regretter ce que nous avons fait, regretter ce que nous avons regardé, regretter ce que nous avons dit, regretter de ce que nous n'avons pas dit, regretter de ce que nous avons fait, etc. etc. Il doit créer en nous le regret. Le regret, c'est quelque chose comment je pourrais dire, crée une situation, une émotion, crée un vouloir, un rejet, une honte. Entrer dans une véritable regret du péché. Pourquoi j'ai fait ça? Limite, je dirais pas de la colère, mais presque. Parce que c'est, oh, je regrette. Ben là, déjà, il te manque quelque chose. La repentance doit créer en toi un regret, un refus, un rejet de cette situation. Parce que Dieu m'a dit que je ne dois pas être comme ci, je ne dois pas parler comme ça, je ne dois pas regarder ci, je ne dois pas faire ça. Donc, Seigneur, j'ai péché contre toi, je regrette d'avoir fait telle chose. Donc, il y a une émotion, il y a une volonté qui se crée en nous. Et donc, cette émotion, cette situation nous fait que ça va nous aider à expulser. Jésus ne dira pas, ce n'est pas ce qui rentre en homme qui le souille, mais plutôt ce qui en sort. Et bien là, il faut faire sortir justement cette chose, ce que nous avons regardé, de ces images, de ces choses, de ces paroles, de ces convoitises et d'autres choses. Ben là, on va pouvoir le confesser à Dieu. Donc là, c'est-à-dire que déjà, j'ai mal agi. La repentance vient, je regrette la chose, je vais me mettre dans une situation où là je vais prendre du temps avec Dieu. Je vais dire, Seigneur, voilà, j'ai fait ceci, et je sais que c'est pas bon. David dira, j'ai péché contre le ciel et la terre. D'être conscient qu'on a péché devant Dieu, parce que quand tu l'as fait, il était là. Tu lui apprends rien. Eh oui, tu n'y apprends rien. Tu lui apprends rien. Mais est-ce que tu vas dire, waouh, ouais, je vais prendre le temps. Je vais dire, Seigneur, je viens à toi. Je sais que tu le sais, mais je veux te le donner, je veux te le dire, j'ai honte. Je regrette amèrement. Et lui demander pardon, un pardon sincère. Et là, on rentre dans le pardon. Dans le livre de Finney, il raconte comment l'esprit de repentance descend dans une assemblée. Donc déjà, à cette époque-là, on est en 1800, donc c'est dans une école qu'ils ont réussi à emprunter le bâtiment. Et ils ont emprunté cette école, c'est le week-end, etc. Il va prêcher et l'esprit de repentance va venir. On est samedi. Il va y avoir un problème. que les gens jusqu'au lundi matin sont en train de pleurer et demander pardon. Sauf qu'il faut faire sortir les gens parce que l'école doit reprendre. Et les gens vont se retrouver dans une grange et vont continuer. Ils vont continuer à se tourner vers Dieu, de dire, et point par point. C'est une des choses que j'ai compris aussi moi dans ma vie, point par point. Est-ce que j'ai demandé à Dieu pardon? Est-ce que j'ai été au profond de mon cœur, de mon âme, pour dire, j'ai mal agi devant toi? Ou je suis resté à la surface? Beaucoup de choses, je l'ai fait à la surface. Et maintenant, Dieu est en train de travailler mon cœur pour aller plus profond. Parce que pour aimer les autres, pour réciter, ça a besoin de place. Mais tant que ces choses-là sont là, bah Dieu ne peut pas remplir. Et la Bible dira, je ne peux pas remplir un vase qui est déjà plein. Donc il va falloir se permettre à Dieu de te vider pour te remplir. Et une fois que tu es passé par le pardon, tu vas demander d'être changé. Pour pas recommencer, parce que c'est son action dans ma vie qui va faire que je vais pouvoir. Et combien de choses dans ma vie le Saint-Esprit est agi. Quand j'étais petit, ma bouche était un déversoir de gros mots, et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je n'y arrivais pas. Il a mis un ange à ma bouche. Quand j'ai eu mon problème avec mes yeux qui regardaient incorrectement, j'ai demandé à Dieu et Dieu agit dans mes yeux. Dès que mes yeux commençaient, bloup, ils partaient. Mais merci Seigneur, parce que nous avons un Dieu vivant qui veut nous aider dans tous les domaines de notre vie. Mais faut-il les mettre à la lumière et avoir l'audace et le courage de lui dire « Oui, je ne suis pas bon. Oui, j'ai besoin d'un sauveur. Je veux changer. J'ai besoin de l'aide de Dieu. » C'est une décision de changement par la repentance. La chair aime le péché, mes frères et sœurs. Notre chair est attirée par tout ce monde et tout ce qui s'y trouve, de la terre à tout ce qui brille, tout ce qui est tout lui plaît. Elle est en opposition à Dieu. Dans 2 Timothée 2:25. Que Dieu donne la repentance. Ce n'est pas une œuvre qui vient de vous, mes frères et sœurs. C'est une œuvre qui vient de Dieu lui-même. Mais faut-il l'accueillir, l'accepter? C'est difficile de se repentir. Je veux pas vous vendre un message à l'eau de rose. C'est difficile, ça demande de l'engagement, ça demande de la volonté, mais ô combien il y a des bénédictions qui sont derrière. Le péché ne nous emmène qu'à la mort éternelle. Que Dieu nous emmène à la gloire éternelle. Le danger, c'est de se repentir à bon marché, vite fait, en surface. Comme je vous l'ai dit, ça ne vous donne aucune force. Est-ce que nous le voulons vraiment? Est-ce que nous voulons vraiment nous repentir? Il y a des gens, limite leur péché, c'est des fois leur meilleur souvenir. C'est compliqué. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux m'en sortir? Proverbe 8:13 dira, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et dans Proverbe 8:10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tant qu'on aime le péché, tant qu'on aime le péché, ben c'est trop difficile de s'en séparer. Je vais prendre un parallèle. Si tu as un ami que tu aimes et qui t'emmène dans la perversion, comment tu peux t'en séparer? Cet ami, vous pouvez lui mettre le nom que vous voulez, hein, physique comme matériel. cet ami que tu aimes et qui t'emmène vers la perversion, comment tu peux t'en séparer? Il faut haïr pour se séparer de quelque chose. Mais tu aimes cette chose. Comment tu veux? Comment tu peux? Dieu te dit que ce n'est pas bon, mais toi tu l'aimes. Tu ne peux pas. Dieu dira, tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu n'as pas le choix. Si, en fait, tu as le choix. Tu auras toujours le choix. Mais c'est ce qui fait qu'il y a des chrétiens qui vont stagner et qu'il y a des chrétiens qui vont aller très loin. Ce sont des choses qui sont difficiles. Mais si tu ne hais pas, mais si tu aimes, tu ne peux résister. Rechercher la repentance, on le trouve dans Jérémie 4, verset 3. Jérémie 4, verset 3. Dans la deuxième partie, j'ai pris « Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les épines. » Défrichez-vous un champ nouveau. On ne peut pas semer dans les épines. On ne peut pas. Sinon, vous êtes dans le livre des Proverbes avec vous êtes l'insensé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Il faut se préparer à un champ nouveau. Transformer nos cœurs. Transformer nos cœurs. Et lui seul est capable de le faire. On ne peut pas avoir de bons résultats sur de mauvaises bases, mes frères et sœurs. On ne peut pas avoir de bons résultats. Vous avez la parabole de la maison construite sur le sable et sur le roc. Il y en a je ne sais combien d'exemples dans la parole de Dieu. Quelle est votre base? Sur quoi avez-vous construit votre foi? Sur quoi avez-vous mis votre foi? Et est-ce que vous allez laisser le Saint-Esprit agir, point, jour après jour, et vous emmener justement dans l'accomplissement de ses promesses? Le prophète Joël le dira dans Joël 2,13, il le dira très très bien. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revêtez à l'Éternel, votre Dieu. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'Éternel. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, si vous voulez sauter, que ce soit intérieurement ou physiquement, vous pouvez. Ne le faites pas, je vais sauter et qu'à l'intérieur, bon je l'ai fait parce qu'il l'a dit. Là, je rejoindrai certains frères qui disent « Moi, voilà, je préfère rester. » Mais c'est j'ai pas de problème avec ça. Mais déchire ton cœur. Il y aura l'histoire avec les circoncis, les incirconcis. C'est ceux qui sont circoncis de cœur qui est important devant Dieu. Ce n'est pas de ce qui est à l'extérieur qui compte. C'est ce qui est à l'intérieur. Attention. Que ce ne soit pas seulement de l'extérieur que nous faisons les choses et que nous nous repentons ou que sais-je. L'œuvre doit être intérieure comme nous avons pris le repas du Seigneur qui est une œuvre intérieure et qui jaillit vers l'extérieur. Déchirez vos vêtements dans la prière. Sans le croire, le cœur, il reste entier. Combien certains, ils font comme ça, mais... Ils vont prier, Seigneur, mais leur cœur ne change pas. Tu peux faire des magnifiques prières, mais si ton cœur est dur, si ton cœur résiste. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, on allait dans les églises, entre autres à Saint-Onge. Oh, il y avait un homme, il priait. Waouh ! Je peux dire qu'une fois qu'il avait prié, personne ne priait derrière lui. Hein. C'était du haut level. Ça va, je l'ai bien dit ? Non, je n'ai pas bien dit. Du haut niveau. Je me fais reprendre par mon fils. C'était du haut niveau. Sauf que le dimanche suivant, il y allait. C'est marrant, c'est la même prière. Le dimanche suivant, c'est encore la même prière. En fait, c'était une récitation. C'était plus de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'était, j'ai trouvé une belle prière que j'ai dû travailler et que je récite, mais le cœur n'y est plus. Et le Seigneur, il préfère des gens qui chantent faux. Il préfère que ce soit des gens qui soient incapables, des illettrés, et on le pourrait le voir, hein, il a bien pris des pécheurs. En général, les pécheurs, ce n'est pas ce qu'il y a de plus haut niveau intellectuel. Et pourtant, c'est bien par eux qu'il va passer. C'est bien par des gens qui ne savent pas chanter ou des gens qui ne sont pas doués que Dieu va agir. Mais est-ce qu'on va le laisser agir? Est-ce qu'on va se laisser impacter? Allez, je vais essayer de finir parce que c'est vrai que je m'étale. La repentance biblique, c'est s'humilier devant Dieu. La repentance biblique, c'est on s'humilie devant Dieu. Je peux vous dire que s'il y a une chose que j'ai appris, c'est ou de me mettre à genoux, carrément me mettre à plat ventre devant Dieu quand il est là. Ou quand j'ai un chant, je ne peux pas ne pas être en accord avec ce que le chant dit. Si le chant me dit à genoux devant toi, en tout cas pour ma part, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas faire autrement que de le faire. Parce que ma parole doit être accompagnée d'action. Ça, c'est pour ma part, chacun a un niveau différent. Ne vous sentez absolument pas jugé là-dessus. Mais la repentance biblique est de s'humilier devant Dieu. On va prendre dans 1 Pierre 5, 6. Dans 1 Pierre 5, 6 qui dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. » De s'humilier. Il vaut mieux que ce soit nous qui nous humilions, et j'aime beaucoup la prière de notre sœur Corinne qui le dit souvent, que lui vienne nous humilier pour nous remettre à notre place. Il vaut mieux que ce soit nous qui comprenons où est notre place, où on a fauté, qu'on veut lui demander pardon et on va se mettre à notre niveau et on va s'humilier devant Dieu, que ça soit l'inverse. Moi, je vous le conseille tout du moins. Oui. Dans Ésaïe 57, 15. Ésaïe 57, 15, la deuxième partie du verset qui dit « Je suis avec l'homme contrit et humilié. » Dieu est avec ceux qui s'humilient, qui ont ce cœur contrit devant Dieu, qui dit « J'ai tort, j'ai besoin de Dieu. » Et Dieu est avec nous. C'est une humiliation volontaire. Ce n'est pas une humiliation que on peut imposer à qui que ce soit. C'est toi avec Dieu qui va prendre ce temps et tu vas t'humilier et tu vas être devant sa présence et tu vas te laisser passer par le scanner. Tu vas te laisser visiter par Dieu. Allez, je conclue parce que sinon je ne vais pas m'arrêter. Je finis. Mes frères et sœurs, comme je dis, et comme pour moi, qui suis le premier concerné par la repentance, cherchons-la de tout notre cœur. C'est une solution pour chacun de nous. C'est une victoire pour nos corps, pour nos vies, pour nos âmes. Ne soyons pas indulgents, ne soyons pas gentils, ne lâchons rien, ne lâchons aucune autorisation, quel qu'il soit, devant le péché, comme je vous ai dit, qui n'a qu'un seul but de nous emmener à la mort. Il ne faut pas que nous soyons gentils. La Bible dit qu'il faut qu'on tienne notre corps en bride. C'est aussi l'une des choses qu'on apprend, entre autres, quand on jeûne. C'est une chose qu'on apprend à tenir notre corps en bride. Il ne faut pas laisser un millimètre à l'ennemi de tout ce que le Saint-Esprit nous fait voir, il faut aller jusqu'au bout. Je ne sais qu'une chose, que ce n'est pas facile, mais ô combien glorieux tant que notre vie dans nos vies. Je ne sais pas ce que j'ai écrit. Je sais que ce n'est pas une chose facile, mais ô combien glorieux dans tant de niveaux de notre vie. Oh Seigneur, je sais que ce n'est pas facile, mais ô combien glorieux dans chacun niveau de notre vie. Mes frères et sœurs, je veux vous encourager à une réelle repentance. Moi, je suis convaincu que le Saint-Esprit, comme il me parle, vous parle, a mis le point sur telle ou telle chose dans votre vie. Mais s'il a mis le doigt sur telle ou telle chose dans votre vie, c'est qu'il a la solution déjà. Il a déjà préparé la porte de sortie. Il a tout ce dont tu as besoin, grand comme petit. Ne rate pas cette occasion. Ne rate pas cette occasion. Si vous voulez bien, je vais clôturer par la prière. Seigneur, je veux te louer, te remercier parce que oui, moi aussi je suis pécheur. Mais ô combien tu nous ouvres les portes grandes ouvertes du royaume des cieux. Parce que le royaume de Dieu s'est approché et on a une espérance en toi glorieuse que tu veux nous donner une victoire. Oui, nous avons tel ou tel manquement dans nos vies. Oui, nous avons telle ou telle chose qui ne glorifie pas ta vie. Mais tu peux, par l'action de ton esprit dans ma vie, dans la vie de mes frères et sœurs, de manifester ta gloire. Ô Seigneur, je veux te rendre toute la gloire. Parce que, comme je l'ai dit, il n'y a rien de bon en moi. Le seul qui soit bon, c'est toi. Et je sais que tu parles au cœur de tes enfants. Je sais que tu leur parles parce que je sais que tu les aimes. Parce que je sais que tu veux les emmener dans de verts pâturages. Tu veux les emmener là où leur cœur a besoin d'être. Ils ont besoin d'être rafraîchis, d'être nourris, restaurés, consolés. Toi seul es capable de le faire. Toi seul es capable de le faire, papa. Père, je te prie, dans le nom puissant de Jésus, manifeste ta gloire dans la vie de mes frères et sœurs. Touche leur cœur pour nous emmener plus loin avec toi. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais ô combien discerner ta présence, discerner que tu es le Dieu qui veut agir dans nos vies, dans les couples, dans les enfants, dans les familles, dans les désirs, dans les naissances, dans les finances. Ô combien nos cœurs sont attirés par telle ou telle chose, dans notre travail, dans notre santé, notre voisinage. Tu as la solution à toute chose. Mais toi, tu nous appelles à prendre du temps avec toi. Tu nous appelles à considérer nos voies. Ô Père, je vais te rendre toute la gloire parce que si tu nous dis tout cela, c'est que tu as la solution. Si tu nous dis tout cela, c'est parce que tu veux nous emmener dans des pâturages que nous ne connaissons pas, mais que tu veux nous bénir. Tu veux nous délivrer. Comme l'aveugle au bord du chemin. Comme l'aveugle au bord du chemin qui sait que Jésus passe, il va se mettre à crier « Fils de David, aie pitié de moi !» Et on va vouloir le faire taire. On va le réprimander. On va lui faire des remarques. Et il dira quoi ? Il va se mettre à crier plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jusqu'à ce que Jésus va dire « Amenez-le-moi ». Et on lui dira « Prends courage, car le maître t'appelle ». Le maître t'entend, entend le cri des cœurs, entend vos détresses, nos détresses, et veut y agir. Et il dira « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
Tu vois pas que je suis aveugle ?»
Non, il dira « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Et il dira que je vois.
Eh bien, moi, je voudrais prier pour que cet après-midi, dès maintenant, que mes frères et sœurs voient ta gloire se manifester dans leur vie, dans tous leurs besoins. Amen.